À tort ou à raison, n'est-ce pas? On passe obligatoirement par des moments de colère.
Tout le monde le sait, tout le monde en parle! Alors arrête de me faire rire, hein! Parce que j'en ai marre!
Silence!
Papa!
Tais-toi!
Donne-moi l'échelle! Donnez-moi, je suis calmé là! Donnez-moi l'échelle!
Catharsis.
Go home and get your fucking shine box.
Motherfucking mutt, you fucking piece of shit!
L'émission qui part à la rencontre de ceux qui, un jour, ont pété les plombs.
Allez, de petit enculé! De merde!
L'être humain est irréductible. Toute tentative de le réduire à un corps pour des raisons pratiques ou idéologiques porte atteinte à sa dignité, à son intégrité et aboutit à moindre soin. Son esprit peut, comme le corps, subir un choc. Il peut être blessé et donc soigné. Ce sont des soignants qui l'ont appris de ceux qui revenaient de la guerre du Vietnam. Puis ils ont témoigné et ils se sont battus pour faire admettre cette idée qu'il existe des blessures psychiques, qu'il existe un psychotrauma. À propos d'une personne qui revient traumatisée d'une zone de conflit, on ne dit plus un lâche ou un faible, on dit un patient. Le soin est une science humaine et une science politique.
Ces mots, ce sont ceux d'Antoine Ricard, le président du Centre Primo Levi, dans le dernier numéro de leur revue d'information, Mémoire. Le Centre Primo Levi est un centre de soins situé à Paris qui accueille toutes les personnes exilées en France ayant subi des tortures ou des violences politiques dans leur pays d'origine. Aussi étonnant que cela puisse paraître, aujourd'hui, dans les procédures de demande d'asile de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'état de santé des demandeurs et demandeuses d'asile n'est pas pris en compte. De même, aucune prise en charge médicale ne leur est proposée, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Mais, face à cette situation, quelques irréductibles Gaulois tentent, à leur manière, de redonner des couleurs aux lettres de notre devise quelque peu effacées. Pour ce troisième épisode, Catharsis vous emmène donc dans un centre médico-psychologique loin de Paris, et c'est Véronique, infirmière de secteur psychiatrique, qui nous raconte une explosion de colère au cœur de son quotidien.
Je m'appelle Véronique, je suis infirmière de secteur psy et je suis plus précisément auprès des personnes qui sont en demande d'asile. Je vais vous raconter un de mes petits pétages de plomb avec un jeune médecin qui est venu travailler dans notre CMP et qui, comme tous les jeunes médecins qui arrivent, qui n'ont pas l'habitude des personnes en demande d'asile, ils arrivent avec des idées tout à fait préconçues. Donc ce jour-là, ça faisait 2 jours qu'il était dans le CMP, sympa, charmant, ça s'était bien passé. Et puis je l'interpelle parce qu'il y avait une personne qui était dans mon bureau en demande d'asile et qui était en grosse crise d'angoisse. Il vient, il fait son boulot, pas de problème, ça se passe bien, il prescrit ce qu'il y avait à prescrire, il gère l'urgence. Et puis on se retrouve dans notre salle de pause dans les 10 minutes qui suivent et il arrive vers moi avec un air très, très... entendu, il savait de quoi il parlait, et il me dit « Oui, non mais de toute façon, tous les demandeurs d'asile, ils sont juste là pour avoir des attestations, en fait, en gros, c'est du pipeau. » Et là, comme c'est un sujet qui est très sensible pour moi, et que je ne supporte pas qu'on les agresse, surtout quand on ne les connaît pas, j'ai carrément pété un plomb. Je lui ai hurlé dessus en lui disant que pour qui il se prenait, d'autant que c'est quand même un médecin étranger, donc pour qui il se prenait, pour qui il était pour pouvoir juger ces personnes et tout. Et je me suis mise à hurler. Il a essayé de me récupérer et je suis partie, j'ai claqué la porte, je suis sortie sur la terrasse et j'ai hurlé en disant que c'était juste impossible. Et il est arrivé en essayant de se récupérer en me disant « Oui, mais c'est un autre médecin senior, bien connu sur un hôpital lyonnais, qui m'a dit ça parce qu'il en a déjà reçu 3 ou 4. » Et je vais juste essayer de lui expliquer le plus calmement possible, ce qui était complètement impossible, que moi, ça faisait 10 ans que je travaillais dans la demande d'asile et que de toute façon, même si ce médecin était senior, c'était un gros con et même si c'était un de mes cousins.
This is not like people on the you are free. If not, you can leave your country. This is not a joke, this is reality. This is the price of liberty.
Quelques jours après, je me suis fait convoquer dans le bureau parce que le pauvre petit médecin, je l'avais traumatisé. Il était allé pleurer auprès de la surveillante qui lui a effectivement expliqué que c'était un sujet très sensible avec moi et qu'il fallait surtout pas m'attaquer sur ce registre si on voulait pas que tout vole dans la pièce. Bon, oui, j'ai travaillé quand même pas mal de temps avec lui. Bon, il s'est beaucoup justifié en me disant « Oui, mais moi, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai eu géré l'urgence », ce en quoi j'étais entièrement d'accord. Mais par contre, je lui ai quand même dit qu'on ne pouvait pas poser des préjugés, des choses comme ça, sans connaître les situations, sans savoir ce qu'il en était. Et que ce n'était pas parce qu'il avait rencontré 3 personnes qui pouvaient... faire un amalgame sur tout le monde et imaginer que les gens étaient tous pareils et qu'ils venaient tous pour s'amuser parce que effectivement c'est malheureusement il y a beaucoup d'idées préconçues comme quoi ils viennent uniquement pour faire du tourisme ou ils viennent pour piquer le travail des Français ou ils viennent pour utiliser nos allocations familiales alors qu'ils ont absolument rien de tout ça. Je suis infirmière en CMP, donc en centre médico-psychologique, sauf que effectivement mon choix, c'est de travailler auprès des gens qui sont en demande d'asile. Sur notre secteur, il y a un centre d'accueil des demandeurs d'asile et je travaille très en lien avec les intervenantes sociales. Et du coup, pour faire vraiment un gros raccourci et essayer d'être le plus humble possible, c'est déjà pouvoir redonner un sens à leurs paroles qui a souvent été bafouée et pas entendue. Et essayer de redonner un tout petit peu d'humanité dans tout ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que la violence qu'ils leur est faite, c'est pas que dans leur pays, c'est sur le trajet et c'est beaucoup, beaucoup sur le non-accueil en France. Alors je fais des entretiens de soutien psychologique, donc essayer de gérer un petit peu toutes les émotions, mettre en lien, remettre des mots sur tout ce qu'ils ont pu vivre et mettre en lien les émotions avec les traumas vécus dans leur pays, aider à mettre en mots pour pouvoir avoir une parole qui a plus de sens par rapport à leur dossier de demande d'asile, parce que très souvent, il y a pas une désorientation, mais c'est un peu tout mélangé, enfin c'est très difficile d'arriver à remettre les choses dans l'ordre et du coup, moi, j'ai un autre angle d'approche par rapport aux juristes qui montent les dossiers. Et donc, voilà. Donc, moi, je travaille, les personnes me sont envoyées par les intervenants sociaux. Et puis, quelquefois, on travaille toujours très en lien, tout en gardant la confidentialité des entretiens. Mais aussi, et très souvent, je suis présente aussi pour les interviews, pour les entretiens, pour faire les dossiers, parce qu'ils ont besoin d'être beaucoup réassurés. Et puis moi, je vois ces personnes entre le plus rare, enfin le plus espacé, c'est tout par quinzaine, quand je travaille avec des interprètes, parce que ça a un coût énorme, qui n'est pas pris en charge par l'hôpital, bien évidemment. Et sinon, c'est une fois par semaine, et voire deux fois par semaine, et voire dans certains moments, tous les jours.
Si Véronique voit certains patients tous les jours, c'est peut-être parce que la prise en charge psychiatrique pour les demandeurs d'asile est pratiquement inexistante en France. En fait, elle est ce qu'on appelle personnel dépendant, comme dans le cas de Véronique. Véronique travaille dans un CMP, un centre médico-psychologique, dont la spécialité n'est pas du tout les demandeurs et demandeuses d'asile. Si elle suit ces populations-là, c'est uniquement un choix personnel qu'elle a fait. C'est la seule infirmière de son CMP à s'occuper des personnes en demande d'asile. C'est-à-dire aussi que si elle prenait sa retraite aujourd'hui, par exemple, ou si elle déménageait, personne ne viendrait la remplacer.
Alors, c'est vrai que moi, mes pétages de plomb, c'est très très rarement sur mon lieu même, c'est-à-dire sur le CMP. Mais quand je pète des plombs et que je supporte pas certaines réponses parce qu'elles sont parfaitement injustes, ou les grands sauts de joie, c'est avec les collègues et les intervenantes sociales du CADA, parce qu'on est vraiment dans... On est dans les mêmes émotions, on suit les gens de très très près, on a accès, entre guillemets, à des parties de leur vie qui sont extrêmement difficiles, je veux dire, avoir des récits de torture et pouvoir essayer que les gens arrivent à se reconstruire malgré ce qui leur est arrivé, ça brasse beaucoup. Et du coup, les pétages de plomb, ils sont plus avec ces collègues-là. En général, j'essaye de rester soft dans le CMP. Mais des fois, ça dérape.
Écouter, soigner, considérer, c'est aussi accueillir et prendre sur soi les expériences bien souvent douloureuses et brutales des patients. J'ai demandé à Véronique quelle était l'aide prévue pour aider les soignants à ne pas être trop impactés par les histoires qu'ils aident à accoucher.
Dans notre structure, il est prévu une supervision et qui est pour tous les infirmiers. Moi, je suis la seule infirmière à m'occuper de la demande d'asile, surtout le personnel du CMP. Donc là, actuellement, j'en parle un peu plus avec le superviseur qu'on a actuellement, parce qu'il a une oreille bienveillante et très impartiale. Il y a eu beaucoup de fois où je me suis tue, parce que c'est une clinique qui est tellement spécifique et différente par rapport à la clinique des psychotiques et tout, qu'il y a beaucoup d'incompréhension et que très souvent, j'ai l'impression aussi d'être marginalisée comme cette population.
Cette clinique des traumatismes vécus pendant l'exil, si spécifique soit-elle, est indispensable à la compréhension des récits de vie des demandeurs d'asile. Ces récits d'exil sont d'ailleurs la base des procédures opérées par l'OFPRA. Mais souvent, chez les personnes auditionnées, ces traumatismes provoquent des états de paralysie, de sidération ou même d'anesthésie, comme nous le dit Marie Dagnès, la rédactrice en chef de la revue Mémoire. Dans les faits, les personnels de l'OFPRA qui auditionnent les personnes en demande d'asile ne sont pas formés en psychotrauma. Ils ne peuvent pas évaluer ni comprendre le mutisme de certaines personnes lors de leurs entretiens. Bien sûr, cette situation n'est pas le fait des officiers de l'OFPRA, mais bien des politiques d'accueil mises en place au niveau de l'exécutif politique. Mais comment peut-on comprendre le récit de la personne en face de nous, bien souvent s'exprimant dans une langue étrangère, sans prendre en compte les troubles psychologiques et les épreuves qu'elle a pu traverser ?
Il y a des grands pétages de plomb aussi quand il faut faire hospitaliser des gens où on dit non, ils vont bien, c'est juste pour aller faire un tour à l'hôpital alors que c'est complètement fou.
Revenons à l'aspect politique de la prise en compte des traumas psychologiques. En juin 2018, le ministère des Solidarités et de la Santé a semblé faire un pas vers la reconnaissance des traumatismes psychologiques des personnes réfugiées et a lancé un appel à projet national pour l'identification d'une dizaine de dispositifs de prise en charge globale du psychotraumatisme. Même si elle s'annonce plus symbolique qu'effective, on a là la première étape dans la reconnaissance politique de cet enjeu sanitaire et social. Avant de vous quitter, et si le sujet vous intéresse, il me reste à vous conseiller plusieurs lectures. Il y a quelques années, la revue Le Tigre, qui a cessé de publier depuis, avait publié un long reportage sur les conditions de travail des officiers de l'OFPRA, l'occasion d'aller jeter un œil à l'intérieur de cette grosse machine. La revue Mémoire du Centre Primo Levi, et notamment dans le numéro de septembre 2018 que j'ai cité tout au long de cet épisode, vous retrouverez un entretien avec Richard Rechtmann, anthropologue et psychiatre, qui nous éclaire sur la fonction et l'aspect double tranchant de la reconnaissance du traumatisme psychologique dans les procédures de demande d'asile. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Catharsis, l'émission qui part à la rencontre de ceux qui, un jour, ont pété les plombs. Vous pourrez réécouter cet épisode très prochainement sur le site radiocampusparis.org. De la même manière que nous avons commencé cette incursion dans le monde de la psychiatrie de l'exil, finissons encore avec les mots d'Antoine Ricard.
Celui qui a été complètement dénudé, dont l'existence ne tient plus qu'à un fil, il nous appartient de le revêtir du plus ajusté des costumes, pour l'aider à vivre la suite de son histoire.